soir, vous êtes à l'écoute d'Imaginaire jusqu'à 22h sur le 101.5. Au menu ce soir, deux interviews. On aura en deuxième partie d'émission l'écrivain David Brie, interviewé par Pierre-Marie aux Utopiales. Et on commence tout de suite avec l'auteur de livre-jeu VS qui répond aux questions de Sébastien, avec tout d'abord un petit mot de son éditeur.
Bonjour, je m'appelle Philippe Jaillet. J'ai créé, il y a 6 ans, Posidonia Édition, une maison d'édition associative qui est dédiée à la promotion et à la diffusion de la littérature interactive, les livres-jeux, dont la plus célèbre collection est « Un livre dont vous êtes le héros » de Gallimard. En ce qui concerne nos activités, nous avons notamment publié une réédition de la série « Histoire à jouer » enrichie d'inédits, ainsi que de plusieurs livres français historiques comme les séries « C'est toi le détective » et « C'est toi l'aventurier » de François Thierry. Mais nous publions aussi des ouvrages inédits, comme récemment « Les tambours de Chamanka », qui est lauréat du Yestromo d'Or 2016. La publication des tambours de Chamanka s'inscrit dans notre projet de publication, au format papier, des livres inédits lauréats du prix Yestromo. Il faut savoir que le Yestromo, c'est un prix décerné par les votes de la communauté au travers du site litteraction.fr et des forums La Taverne des Aventuriers et Rendez-vous au 1. Et nous trouvons justement important de permettre à ces ouvrages, dont la qualité est reconnue par la communauté, de trouver un plus large public avec un réel travail éditorial et d'illustration, une mise en page agréable, une vraie diffusion en librairie, etc. Bref, tout ce que peut apporter une maison d'édition. Il se trouve que Les tambours de Chamanka est une aventure située dans la culture africaine. Et nous allons publier en 2023 une autre aventure dans ce même milieu culturel, Conte du Griot Céleste, un livre qui a reçu le Yestromo d'Or 2021. Alors, la publication rapprochée de ces deux ouvrages est un hasard éditorial, mais nous sommes très heureux de cette opportunité d'explorer, à travers la littérature interactive, des cultures qui sont rarement abordées dans ce genre.
Je reçois ce soir Voyageurs solitaires de Lyon, dont la voix de conteur voyage jusqu'à nous sur les ondes du 101.5. Il va nous parler de son premier roman interactif, édité, Les tambours de Chamanka, un grand format, au prix de 19,90 €. C'est le point de départ d'une saga baptisée Les Fils du Soleil, qui va compter normalement jusqu'à 6 volumes. Alors, c'est un joli bébé, les amis, de 451 paragraphes, avec 8 fins possibles, ce qui donne une rejouabilité des plus appréciables. Cela a été coédité par des défenseurs du livre-jeu que je salue, Posidonia et Alconost. Comment en es-tu venu, VS, à être publié par ces deux éditeurs ?
Bonsoir, merci de me recevoir, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Alors, pour répondre à cette première question, comment est née cette publication ? En fait, c'est grâce à un membre d'un des forums consacrés aux AVH et à la littérature interactive que je fréquente, qui a lu Les tambours de Chamanka en ligne et qui a été enthousiaste, je dois le reconnaître, et qui m'a donc proposé de me mettre en contact avec Posidonia, qui pourrait être intéressé pour une publication. J'ai donc pris contact avec Posidonia et de fil en aiguille, on en est donc venu ainsi à publier sous la forme de livre cette aventure.
Outre les assez longs paragraphes, ce qui frappe le regard en feuilletant Les tambours de Chamanka, c'est le très grand nombre d'illustrations, 145. Quel est le but poursuivi s'il y en a un ? D'en avoir autant.
Alors pour les illustrations, déjà je voudrais saluer le travail de l'illustrateur Vianney Carnevalo qui m'a été recommandé par Posidonia. Le nombre des illustrations, c'est une volonté de Posidonia. Personnellement, je dois l'avouer, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Mais c'était une décision de Posidonia. Le but était d'offrir quand même un panorama de ce monde aux lecteurs. Et donc, le but était même de faire en sorte qu'environ tous les 10 ou 15 paragraphes, il y ait une illustration. Donc, ça a été un sacré boulot que Vianney, que je salue à nouveau, a très bien réalisé. Ça a été un échange très intéressant entre nous deux et ça m'a permis à moi aussi d'avoir une autre vision de l'univers que j'ai créé, puisque Vianney s'est fié à mes paragraphes, à mes comptes rendus, à mes indications, mais il a quand même eu une grande liberté de création et je dois reconnaître qu'il a donné sa propre vision à mon univers, sa vision qui est différente de la mienne, mais le résultat est vraiment en tout cas très satisfaisant et je pense que ça fait beaucoup dans l'attrait du livre. Mais à la base, c'est l'éditeur qui a préféré qu'il y ait beaucoup d'illustrations et beaucoup d'images.
Et qu'est-ce que ces images du monde et des créatures de Chamanka ont-elles à apprendre pour toi, au lecteur ?
Comme je le disais, ça permet au lecteur d'avoir un peu un panorama, une image, une idée, un ressenti même de l'univers qui lui est proposé, parce que c'est un univers qui est un peu inhabituel dans le monde des AVH. C'est un univers qui est un univers de fantaisie inspiré de l'Afrique. Donc on est loin de l'habituel monde des châteaux, des forêts, des proches chevaliers, des gentes dames, etc. C'est très exotique, c'est très différent. C'est un monde assez coloré, païen, sensuel, barbare. Et donc ces illustrations, elles permettent d'avoir quand même une idée, une image de ce qu'est ce monde, de ce que sont ses habitants, les gens qui y vivent, qui y évoluent. Et ça permet à chacun, oui, voilà, de se faire une idée, tout en laissant quand même chacun libre de l'interpréter ensuite à sa manière. Ça donne une base pour se permettre d'avoir sa propre image de ce monde, tout en laissant quand même à chacun, et c'est ça qui est bien, la possibilité de broder ensuite et de renforcer cette impression avec ses propres ressentis, ses propres images.
À l'instar de Retour à Grisguild, ta première AVH, AVH, l'acronyme pour dire aventure dont vous êtes le héros, au paragraphe 1, une cité, ici Méroé, dite la cité sauvage, se voit dans le lointain. Une cité qui est à rallier tel un phare. Entre le héros, se prénommant Ronan, et Méroé, de vastes étendues peu civilisées sont librement à traverser. Que dit-elle, VS, cette première partie d'ouvrage sur les ressorts interactifs de ton AVH?
Alors, cette première partie, elle indique qu'il n'y a pas de quête, qu'il n'y a pas véritablement de but dans cet AVH, contrairement à beaucoup où on a le schéma classique, vous devez sauver le monde, vous devez tuer le méchant magicien, vous devez sauver la belle princesse, etc., etc., que sais-je. Là, pour reprendre un peu l'histoire, on est le seul survivant d'une violente bataille, on fuit, traqué par un ennemi qui est bien décidé à nous abattre, et notre but, c'est tout simplement de s'en sortir. Donc quand on arrive dans ce monde complètement inconnu et qu'on voit cette cité au loin, on se dit que même si on ne sait pas qui habite dans cette cité, même si on est surpris de la voir, on se dit que c'est peut-être un moyen de s'en sortir, que c'est peut-être un refuge. Donc le fait d'avoir cette immense étendue inconnue, mystérieuse, et d'avoir ce but de dernière minute, se dire qu'on peut trouver un refuge, c'est ça en fait le postulat de départ. On n'est pas du tout dans une quête, on n'est pas du tout dans une grande saga où le héros doit accomplir des choses fabuleuses, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est beaucoup plus simple, c'est tout simplement sauver sa peau.
Pourquoi les gestions de l'équipement, de l'or, des repas, contrairement à Retour à Grisguild, tendent-elles quasiment à ne pas être essentielles ici?
Alors la première raison, c'est que déjà dans les règles, il y a plusieurs compétences qui sont à notre disposition, la furtivité, l'habileté, le charisme, la volonté. Donc si j'avais rajouté en plus la gestion des repas, la gestion de l'or, etc., etc., je craignais que ça fasse beaucoup. Et puis, comme on l'a dit, on est dans une situation d'urgence où on court pour sauver sa peau, on est poursuivi depuis plusieurs jours, on est traqué, on se retrouve dans un monde inconnu et on doit essayer de s'en sortir. Donc on va à l'essentiel, y compris dans les règles. On va pas s'embêter à savoir si j'ai ceci, si j'ai cela. Le but, c'est véritablement de s'en sortir le plus vite possible. Et donc, j'ai allégé les règles de ce côté-là, surtout que, comme je le dis, je le répète, avec les compétences qu'on a déjà à gérer, c'est déjà pas mal. Donc, on se libère du superflu. On est traqué, on a juste un petit peu de nourriture, un petit peu d'eau, un petit peu d'or, son épée, et on doit s'en sortir. Donc, on va à l'essentiel.
Porteur d'un message pour le roi Olmec de Méroé, suite à la rencontre de chefs noirs de tribu. Le fait d'être blanc de peau favorise notre intégration au palais. Palais ou à ses entrées, une autre caste de seigneurs blancs, éloignés des soucis de la population noire de la ville basse. Pour résumer, en quoi la relative neutralité du héros, par rapport à ça, apporte-t-elle son poil à gratter dans le récit ?
Alors là, on aborde le thème central un petit peu de l'AVH, c'est-à-dire que Chamanka, et surtout Méroé, est un monde ségrégationniste, où on a une population noire divisée en tribus, en clans, en peuplades, et on a cette cité qui est dirigée par des envahisseurs étrangers, blancs, qui sont venus il y a très longtemps d'un lointain pays qu'ils ont fui pour X raisons, qui se sont installés ici et qui ont conquis les lieux et qui ont imposé leurs lois. Alors bien sûr, les populations locales sont décidées à se révolter et à en finir. On est dans une atmosphère assez mauvaise, assez pernicieuse, qui sent la rébellion, la révolution, avec des troubles, etc., etc. Le fait que Ronan arrive, le héros arrive là-dedans, pour lui, c'est pas évident. Il va se retrouver, en parlant familièrement, le cul entre deux chaises, puisque par sa couleur de peau blanc, on pourrait dire qu'il fait partie de cette élite décadente, déliquescente qui s'accroche à son pouvoir. Mais cette élite, elle le rejette quand même, parce que c'est un étranger, parce que même s'il est blanc, il n'est pas de chez eux. On est vraiment dans un monde élitiste au possible. Et donc, Ronan n'est pas vraiment accepté, le héros n'est pas vraiment accepté, même s'il fait partie de cette élite. Et en même temps, il n'est pas du tout dans cette optique de ségrégation ou quoi que ce soit. Il n'a aucun a priori. Dans son esprit, tout le monde se vaut. Donc, il est en porte-à-faux entre la population qui aspire légitimement à la rébellion, à la révolution et à retrouver sa liberté, et avec cette élite renfermée sur elle-même, dont il fait partie un peu malgré lui. Donc on est avec un héros véritablement, je reprends l'expression, le cul coincé entre deux chaises. Il est là, il fait partie de cette élite parce qu'il n'a pas trop le choix, on l'a accueilli. Il est plus ou moins le bienvenu parce qu'il est le protégé du roi, mais ça ne plaît pas à tout le monde, loin de là. Et d'un autre côté, la population noire reste un peu ambiguë, un peu distante vis-à-vis de lui. On ne sait pas trop vraiment qui il est. Il est entre les deux. Et c'est l'un des ressorts de l'intrigue de cette histoire, c'est qu'il est entre deux feux, il est entre deux chaises. Il est là, et encore une fois, on en revient au début, il essaie tout simplement de s'en sortir. Il essaie tout simplement de voir venir et de se maintenir un peu au jour le jour. L'aventure n'est pas du tout manichéenne. Il n'y a pas les méchants d'un côté et les bons de l'autre. Il y a des salauds et des très gentils des deux côtés. Et le héros que l'on incarne doit naviguer dans un monde où tout est en demi-teinte, où il y a du bon, où il y a du mauvais. Et il essaie simplement de se faire sa place. Et on peut dire tout simplement, plus prosaïquement, à nouveau, de s'en sortir.
Je laisse parler maintenant un acteur central de ton AVH, le fameux Olmec. Le pouvoir. Ne sais-tu donc pas que ce dernier est aphrodisiaque ? Comment lui réponds-tu, VS, à cela dans ton AVH ?
Alors oui, le pouvoir est aphrodisiaque. Ce pouvoir, ça va être la cause de la fin de la société blanche, de la minorité décadente qui gouverne Méroé, puisque ceux qui vont s'en prendre à Olmec, déjà, ils font partie de cette élite. Ce sont ces seigneurs, notamment Alkemec, qu'on va vite rencontrer. mais ils sont complètement dans leur monde. Ils sont décidés, ces intrigants, à prendre le pouvoir à Olmec, qui n'a pas de fils, qui n'a pas d'héritier. Donc ils se disent que si le roi meurt, eh ben, je suis le mieux placé pour prendre la place. Mais ils oublient complètement la population, noire et métisse. Ils sont complètement aveugles, sourds à ce qui se passe. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'ils sont tellement orgueilleux, tellement imbus de leur supériorité, de cette puissance, de ce pouvoir qui leur échappe, qu'ils sont complètement aveugles et sourds à ce qui se passe à côté, et pas un instant, ils ne pensent que la population qu'ils asservissent depuis des siècles aura son mot à dire et pourrait contrecarrer leur plan. Donc effectivement, le pouvoir, les intrigues de cour sont très présentes à Méroé, mais c'est un milieu très fermé, c'est un milieu sclérosé, décadent, qui est en train de s'étioler, qui s'accroche, qui s'agrippe à son pouvoir, complètement fermé et hermétique à tout ce qui se passe autour. Mais voilà, c'est le pouvoir, ça c'est de toute éternité, aussi bien dans le monde imaginaire que dans le monde réel. Il y a des gens qui feraient beaucoup de choses pour le pouvoir.
Au loin, un tambour roule dans la nuit, un tambour frappé par une main noire. Ah, le tambour, les tambours de Chamanka. Ce son du tambour revient par intervalles dans le récit. Annonciateur d'une révolte prochaine, révolte qui vise à destituer le souverain, ce qui fatalement se produira. Chose contre laquelle le héros ne pourra pas grand-chose. Quel challenge incombe-t-il alors au héros dans Méroé ?
Alors, les tambours, tout d'abord, il faut préciser que c'était les masques. C'était les masques de Chamanka. J'étais parti sur une histoire où les masques avaient une grande importance, où de nombreuses tribus, de nombreuses peuplades portaient un masque. Alors c'est quelque chose que j'ai repris dans le troisième volume de la saga, le rire de Gorulga, avec les adorateurs de Gorulga, le dieu gorille, qui porte un masque en ivoire à l'effigie du gorille. Bon, passons. C'est devenu les tambours de Chamanka, parce que je voulais finalement ce fond sonore, ce tambour qui bat la nuit, le jour, qu'on entend comme un bruit régulier, comme un cœur régulier dans la savane, dans la brousse, on ne sait pas trop ce qu'ils racontent ces tambours, on comprend que des gens communiquent entre eux par ces tambours, mais ils en deviennent un personnage à part entière de l'histoire. On les entend, on murmure que les tambours racontent que... Donc c'est devenu un fond sonore qui a pris son importance et qui a donné son titre au premier opus. Après, pour Ronan, on en revient toujours à la même chose. On se répète décidément, mais au cours de cette révolution, quand les peuples noirs et métis de Méroé et de Chamanka vont retrouver légitimement leur liberté, vont mettre fin au règne de leur maître, des concurrents d'autrefois, Ronan ne va pas faire grand-chose. Il est déjà entre deux feux, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, et il va simplement essayer de s'en sortir, puisqu'il va être mêlé à cette révolution. Il va essayer de se défendre, de défendre les rares amis qu'il s'est fait. On peut penser au seigneur Néroli, au seigneur Opet, au seigneur Mosem. On peut penser à Danaï, qui est devenue sa compagne, à Belisa, sa fidèle servante. Donc il va essayer de s'en sortir. Il aura une très grande liberté, puisque le lecteur, à cet instant, peut choisir de partir seul en abandonnant tout le monde. Il peut choisir de fuir avec certains de ses amis. Il y a plusieurs possibilités. Mais encore une fois, le lecteur est un petit peu prisonnier quelque part. Il n'y a pas de quête, il n'y a pas de mission. On vit au jour le jour. Jusqu'ici, on a essayé de s'en sortir, on a essayé de se maintenir, tant bien que mal. Là, la révolution éclate. La ville est livrée aux pillages, aux émeutes, aux incendies. Et le but, c'est tout simplement d'essayer de s'en sortir le mieux possible. Au pire, seul et on se retrouve un peu, on va dire familièrement, gros gens comme devant, comme quand on est arrivé, mais au moins on a sauvé sa vie. Ou il y a aussi la possibilité de s'en sortir avec un groupe de rescapés, où il peut y avoir des Noirs, des Blancs, des Métis, des anciens ennemis d'hier qui fraternisent parce que devant ce qui se passe, on n'a pas trop le choix. Donc encore une fois, c'est pas manichéen. C'est très varié au niveau des fins quand la révolution éclate à Méroé. Mais le but, c'est toujours de s'en sortir, d'essayer de se sortir de tout ça le mieux possible.
Il est à noter qu'à chaque tome des Fils du Soleil, si je me trompe, le héros change. Pourquoi, voyageur solitaire, n'as-tu pas proposé d'incarner qu'un unique héros dans ton cycle de Chamanka ?
Alors, la première réponse, c'est que j'avais peur de la lassitude. J'avais peur que le héros ne plaise pas, et que du coup, si je proposais une saga avec le même héros sur 6 tomes, ceux qui n'auraient pas aimé le personnage que l'on incarne n'aient pas envie de continuer. La deuxième raison, c'est que chaque tome de la saga présente une région différente du monde que j'ai imaginé. Donc les 3 premiers sont basés sur Chamanka, et chacun d'eux va permettre de découvrir une nouvelle région de ce monde, et les 3 qui suivent donnent l'occasion au lecteur de découvrir d'autres régions de ce monde, l'archipel des Tékélès, qui est inspiré de la Grèce antique et des Cyclades, dans d'écume et de sang. On va découvrir le continent de Chamayan dans la citadelle des nuées, Chamayan qui est inspiré des civilisations andines, inca et précolombiennes, et on terminera avec le désert de Talishan dans le dernier volume du Sang sur le sable, qui est inspiré donc d'un univers Moyen-Orient, nomade et désertique. Et donc, pour illustrer chacun de ces endroits, chacune de ces régions, j'ai préféré mettre en place un héros différent. On pourra incarner un homme, on pourra incarner une femme. Il y a plusieurs héros. Il y a Ronan, il y aura Tim Cat, il y aura Eden Roon, il y aura Faidon, il y aura Amapaki et Tanit. Ces héros vivent dans le même espace-temps, ils vivent dans le même monde, le monde de Therion, qui comprend donc Chamanka et les autres régions que j'ai citées. Ils vivent à la même époque, et c'est aussi le moyen de faire des passerelles entre chaque tome, puisque dans chaque tome, on peut rencontrer un des héros qu'on a incarné dans les précédents. C'est valable pour les 3 qui se déroulent à Chamanka, mais c'est valable aussi pour les 3 qui clôturent la saga. Ils vivent tous à la même époque, on va dire à 10 ans près, avant ou après. C'est donc un moyen très sympa de redécouvrir des héros que l'on a incarnés dans un tome précédent, de les découvrir plus jeunes, 10 ans avant, ou de les découvrir plus vieux, 10 ans après, de voir ce qu'ils sont devenus dans mon imagination, dans mon concept. Et donc ça crée un lien entre chaque tome, c'est plus varié. Chaque héros est différent. Amapaki est un guerrier chaman. Il est moitié guerrier, moitié chaman. Tanit est une princesse nomade du désert. Faidon est un capitaine pirate. Eden Roon est une reine des Amazones noires. Tim Cat est un jeune nomade du désert. Donc chacun a sa personnalité. Ça permet d'offrir au lecteur une très grande variété, une très grande variété de lieux, avec des endroits, des régions très différentes, et à chaque fois un personnage différent à incarner dans ce même univers, avec des caractéristiques différentes, avec sa personnalité, avec son physique, et je trouve que ça donne une variété et surtout un très grand nombre de possibilités qui est très très plaisante.
Avant de conclure, pour Imaginaire, j'annonce que Alshaya, le rire de Gorulga, des suites au livre Les tambours de Chamanka, jusqu'à une sortie sous presse, sont disponibles à la lecture gratuitement sur le site literaction.fr. Et je te laisse le mot de la fin, VS.
Donc, effectivement, sont disponibles actuellement gratuitement sur Literaction les volumes qui vont du 1 au 4, hein, c'est-à-dire Les tambours de Chamanka, Alshaya, Le rire de Gorulga, D'écume et de sang. L'année prochaine, il y aura la citadelle des nuées et du sang sur le sable. C'est donc la saga des fils du soleil. La conclusion, ben tout simplement, déjà merci à tous ceux qui m'ont permis de réaliser ce projet. Je salue bien sûr tous les membres de la Taverne des Aventuriers, de Rendez-vous au 1, les deux forums que je fréquente régulièrement, consacrés notamment aux livres dont vous êtes le héros et aux AVH, parce que c'est grâce à eux que j'en suis arrivé là aussi. Ça n'existerait pas ce projet s'il n'était pas là, s'il ne m'avait pas donné envie d'écrire, s'il ne m'avait pas poussé à aller au-delà de ma timidité, de mes craintes, de mes peurs et à franchir le pas. Donc merci à eux, merci à Posidonia bien sûr et à Vianek pour les illustrations, pour avoir donné vie sous forme de livre à toute cette saga. Merci à toi pour cette interview. Et puis le mot de la fin, eh ben voilà, c'est une histoire qui est à votre disposition. Et comme je dis toujours quand on m'en parle, quand on me fait des feedbacks, des retours, si elle vous a fait passer un bon moment, si vous avez eu un bon moment d'évasion et de plaisir, de divertissement en la lisant, eh ben j'en suis très content, j'en suis très heureux. C'est son but. Il n'y a pas de grande réflexion philosophique, littéraire ou autre. Voilà, je suis un auteur amateur qui écrit. Si ça plaît, ben, tant mieux. Je suis bien content que ça plaise à certaines personnes. Si vous passez un bon moment en lisant ces histoires, eh bien, merci à vous et tant mieux. J'en suis très heureux.
Merci à toi et à bientôt.
My body, on my skin, baby, you know I can't explain. This feeling is so strange, baby. You, my baby, I got you. Follows me everywhere. My heart is beating rapidly when I see you smiling, baby. Baby, I got you.
Est extrêmement honoré d'être devant un auteur de talent immense, à tel point qu'il fait bafouiller tout le monde dans la salle, David Brie. David, comment vas-tu? Comment vis-tu ces Imaginales, première fois que tu viens, non?
Alors, je suis très content, d'autant qu'on est aux Utopiales et non pas aux Imaginales. Ça commence très très bien. Non, non, moi je veux qu'on garde. C'est la demande de l'auteur. Je demande qu'on garde. Je suis très content et c'est je trouve que C'est moi qui suis honoré. On a toujours. On vit pour partager. On vit pour rire, et ça c'est très important. Mais on vit pour partager. Et chaque fois que je suis invité quelque part, c'est moi qui suis honoré. Et donc j'ai beaucoup de chance et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très plaisir. Et pour les Utos, ça fait. Parce que les Imaginales, j'y allais assez souvent. Et j'étais très content d'y aller. Les Utopiales, ça fait très longtemps que je n'étais pas venu aux Utopiales. Ça faisait, je pense, une dizaine d'années. J'étais venu avec mon premier roman, donc il y a très longtemps. Et j'ai trouvé cette édition extraordinaire. Alors moi, j'adore les festivals de toute manière. C'est une occasion de rencontrer les lecteurs, de rencontrer aussi les copains et les copines auteurs, parce qu'on ne se voit pas souvent. J'ai adoré, et j'adore, parce que ce n'est pas encore terminé, il reste encore ce soir et demain. Je suis fasciné par l'espace, fasciné par les sciences. J'écris très peu sur l'espace, en tout cas pour l'instant, ça va changer. Mais c'est quelque chose que je trouve... merveilleux. On avait une conf hier, j'avais beaucoup de chance, j'étais avec Laurent Jeunefort et Émilie Kerbalek. Et on parlait des ports, des astroports, des spatioports. Et on parlait des romans maritimes et comment tout ça, c'est aujourd'hui, c'est un peu le même imaginaire qui se transpose dans l'espace avec les spatioports et les astroports. Et pour moi, le sens du merveilleux, j'adore le merveilleux. Vraiment, c'est quelque chose qui me remplit, qui m'émerveille, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'attire. Et ce merveilleux qu'il y a à l'espace, je suis vraiment, vraiment fasciné. Et ce festival, on a à la fois la partie littérature, forcément j'adore la littérature, la partie scientifique et aussi de la jeunesse, je trouve ça vraiment, vraiment extra. Donc j'ai un vrai plaisir à être là, je suis très content et du coup très honoré là aussi d'avoir été invité cette année.
Aux Utopiales.
Aux Utopiales.
C'est bon. Et alors justement, on enchaîne sur ma deuxième question et surtout mon interrogation. Pourquoi est-ce que tu as invité, outre ton talent immense, jusqu'à présent, aux Utopiales, il n'y avait que des auteurs qui écrivaient de la science-fiction. Et ce n'est pas ce que tu écris. En tout cas, ce n'est pas tes dernières sorties.
Ouais. Ça fait longtemps que j'écris, ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Et là, on m'a proposé de participer à l'anthologie jeunesse. Du coup, forcément, sur un versant science-fiction. Donc, j'ai eu le grand plaisir de faire cette nouvelle que j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé la faire dans l'espace. Après, j'ai des projets de science-fiction qui vont arriver assez. Sur lesquels je commence à travailler dans pas très longtemps. Mais oui, c'est surtout lié. C'est pas au travers de la porte de la jeunesse. La jeunesse et de cette proposition d'arriver dans l'anto jeunesse, c'est pour ça que j'ai été invité et que j'espère être réinvité à bon entendeur. Le message est passé. Non, c'est très chouette. Mais oui, effectivement, moi je suis plus fantasy. Pour autant, j'aime pas me cantonner à un genre. Je m'ennuie très vite en fait. Je dis que je suis plus fantasy, mais en fait, les romans, mes derniers romans, sur les quatre derniers, il y en a deux de fantasy, un qui est un polar fantastique et l'autre qui est une uchronie. Quand je parle de mes romans adultes, donc du coup, fantasy, oui, il y a 50% de fantasy, le reste, ça en est pas. Et on est plusieurs dans ce cas-là, je crois certains. Ce sont des bâtisseurs de monde et ce qu'ils adorent et là où ils sont très bons, très forts, c'est de bâtir des mondes entiers et qui sont immensément vastes et de faire des histoires dans ce monde-là en 3, 4, 5, 6 tomes. Moi, faire ça, je me prends en direct parce que pour moi, mes mondes, c'est des scènes de théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. J'ai écrit du théâtre il y a longtemps et dans mes histoires, mes mondes ne sont que des scènes de théâtre et pour autant il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient crédibles, il y a un travail. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Bon, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Je ne le saurai que ce qui va servir à l'histoire. Et ces mondes-là, je les crée pour une histoire et puis ensuite je passe à une autre histoire. Et j'aime bien changer, passer de la fantasy à autre chose, même si je crois que j'ai un truc... j'aime beaucoup la fantasy parce que je trouve ça très viscéral et j'aime beaucoup ça. C'est une sorte, c'est pas de l'introspection parce que je me regarde pas écrire, je ne parle pas de moi. Il y a quelque chose qui est très lié à l'humain. C'est souvent tragique. J'adore ça. C'est souvent shakespearien. J'adore ça. Donc voilà, mon rapport à la fantasy est là. Pour autant, ce que j'aime, c'est aussi explorer d'autres choses avec toujours la trouille de rater parce que pour le coup, quand on essaye, on prend le risque de se tromper. Mais je préfère prendre le risque de me tromper que de faire 15 fois que passe l'hiver, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc demain, la science-fiction, avec beaucoup de plaisir et pas mal d'appréhension. mais bon, ça va avec.
Je rebondis sur ce que tu disais, tu as commencé à écrire il y a une dizaine d'années, 2012.
2009 pour, premier
2009 pour ton premier roman, 2012 pour des nouvelles, et après, en 2019, de la jeunesse.
Oui.
Cette transition, comment ? En général, c'est plutôt des auteurs jeunesse qui finissent par écrire de l'adulte.
C'est le hasard. C'est le hasard, c'est grâce aux Imaginales. En fait, elle est très bien fait de poser la question au tout début de l'interview. C'est grâce aux Imaginales, grâce à Stéphanie Nico, qui dès le début, elle avait lu mes premiers romans, Hervallon, la seconde chute d'Hervallon, qui, comme beaucoup de premiers romans, ne sont pas forcément les meilleurs. Même s'ils ont le mérite d'exister, je suis très content. On en avait parlé à l'époque, il m'avait dit que c'était pas mal, mais que c'était, il y avait du travail. Mais ce qui est tout à fait. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'écrire, c'est un chemin. Mm-hmm. Et que il y en a qui sont géniaux. Mais moi, je suis pas un génie. Moi, petit à petit, je m'améliore. Je travaille beaucoup. Enfin, comme les autres. Hein. Je suis vraiment comme tout le monde. Et petit à petit, on arrive à faire des romans qui sont de techniquement de plus en plus aboutis. Et c'est un travail qui est d'ailleurs vraiment vraiment. Moi, j'adore ce travail-là. C'est de la sculpture ou de l'orfèvrerie. C'est passionnant à faire. Et toujours est-il qu'à un moment, en 2019, Stéphanie Nico me propose d'être le coup de cœur des Imaginales, mm-hmm. suite à Que passe l'hiver, qui est un de mes romans de fantasy qu'elle avait beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, j'ai accepté. J'étais très, très touché, très honoré pour le coup. C'est être. Il y a un sujet. Je ne vais pas en parler là, mais c'est sur la reconnaissance, le syndrome de l'imposteur qu'on a tous plus ou moins, on y passe tous en tout cas. C'est compliqué d'être écrivain, de se reconnaître écrivain. Il y a plein de sujets compliqués. Toujours est-il que là, j'avais une reconnaissance qui n'était pas la moindre, celle des Imaginales. Mmh. Et donc j'étais coup de cœur en 2019. Ça a été une année assez incroyable. Et je me souviens encore très bien. Du coup, j'ai fait plein de tables rondes. C'était vraiment la folie. Et à un moment, j'étais en dédicace à ma table. Il y avait beaucoup de monde. C'est la première fois que j'avais la queue devant moi. J'ai passé des années à écrire en attendant désespérément que les lecteurs viennent à moi. Et là, ils venaient. Mmh. Et tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui approche, qui me dit bonjour, je travaille chez Nathan. Je vous ai écouté, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez. Je voudrais que vous nous fassiez une série jeunesse. Et je pense que s'il y avait eu Zeus qui était apparu devant moi dans un fracas de tonnerre, j'aurais pas été moins surpris. J'étais très étonné parce que moi, la jeunesse, j'ai eu très peur. Hein. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir leur dire. Après, moi, je suis du genre à toujours y aller, quitte à me planter. Mais vraiment, j'ai eu la trouille, surtout que Nathan, c'est une grosse maison d'édition. Mm-hmm. Et donc, je dis, bah oui, avec plaisir, je vais essayer. Et quand j'avais un peu les pétoches, j'ai proposé quelque chose de plus historique. J'avais fait un synopsis de quelque chose d'assez historique. Ils m'ont dit, bon, bah, c'est pas mal, mais est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose d'un peu plus fantasy? Alors, évidemment, là, j'étais un peu plus chez moi. Mm-hmm. Et c'est en fait c'est ce qu'ils attendaient. Et je leur ai proposé le synopsis de Brisen. Et pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que j'avais beaucoup de mal à y croire, hein, à l'effet Nathan, à l'effet série. Et en fait, je leur ai proposé un synopsis du tome 1. Dont l'histoire pouvait se terminer à la fin du tome 1, parce que je me suis dit, bon, mon petit David, t'es bien mignon, mais ça n'ira jamais plus loin. Et en fait, si, ils m'ont dit, mais les autres tomes, maintenant, mon petit David, il nous faut les autres tomes. Et donc, c'est une très belle histoire qui continue, parce qu'on travaille sur d'autres séries avec Nathan. J'ai beaucoup de chance, parce que j'avais cette image des grosses maisons d'édition, et un peu aussi avec Pocket, c'est un peu la même histoire, qui sont un peu impersonnelles, c'est des grosses machines où on nous demande de faire ci, de faire ça, mais en fait, pas du tout. Nathan, comme chez Pocket, même si Pocket, là, c'est que de la réédition, que du poche, ce sont des maisons d'édition, enfin, en tout cas, les gens avec qui je travaille, ce sont des gens qui sont passionnés, qui veulent faire vivre la littérature et qui nous laissent, chez Nathan, puisque là ce sont des nouveautés, une liberté. J'ai une liberté qui est extraordinaire. Je peux aborder ce que je veux. La seule contrainte que j'ai, c'est faire de l'imaginaire, ce que je sais faire, enfin je crois, j'essaye en tout cas, et ce que j'aime faire, et c'est la tranche d'âge. Le reste, j'aborde tous les thèmes que je veux, et c'est vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup de chance, et du coup, voilà, plein de projets chez Nathan, et c'est depuis ce moment-là que je fais de la jeunesse. Et on m'a posé la question de est-ce que j'allais faire que de la jeunesse ? Je m'éclate en jeunesse. Vraiment, c'est comme une deuxième jambe. Ouais, je ne me verrais pas ne pas faire de jeunesse. Vraiment, je prends un vrai plaisir. Il y a plein de choses à faire sur les valeurs, sur ce qu'on veut transmettre. Vraiment, c'est passionnant. L'adulte permet d'explorer d'autres problématiques sur plein de sujets. On pourra en parler après de ce qui m'anime. Mais autant avant où j'étais très bien qu'en adulte, aujourd'hui, je suis très bien en adulte et en jeunesse. Et j'espère, en tout cas, je fais tout pour continuer à faire les deux, parce que c'est deux manières d'écrire qui sont pas si différentes que ça, mais c'est des thèmes qui sont très différents et qui sont vraiment passionnants.
Alors justement, tu abordes un petit peu, c'est... Tu es un adulte, dernière nouvelle.
Oui.
Tu réfléchis en tant qu'adulte et tu écris pour de la jeunesse. Les choses, les littératures de l'imaginaire sont des littératures qui sont foncièrement engagées. Après, est-ce que toi ou non tu es engagé, tu vas répondre plus tard, mais est-ce que tes points de conviction et tes combats en tant qu'être humain sont des choses que tu peux retranscrire à la jeunesse dans de la littérature jeunesse?
Ouais, j'entends deux choses dans ce que tu dis. La première, je ferai une réponse rapide. La seconde, je vais un peu plus développer. Je suis un adulte, je suis... tout aussi convaincu qu'en fait on est plein de choses en même temps. C'est qu'on est l'enfant qu'on a été, on est l'ado qu'on a été. On est l'adulte, avec, et sachant que l'adulte, il passe par plusieurs étapes. Il y a le jeune adulte, etc. Bon, moi, je suis plus un jeune adulte. Je suis un papa, etc. Machin. Et je crois qu'on est l'ensemble de tout ça. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait une conf avec Betty Piccioli et Mel Andoris. Et en fait, on avait tout le temps la même réponse sur pour qui est-ce qu'on écrit. En fait, on écrit pour l'enfant qu'on a été et qu'on est toujours. Il est toujours là. Et moi, quand j'écris mes romans jeunesse, donc Les Héritiers de Brisen, c'est l'histoire de trois enfants dans un Moyen-Âge qui est un peu enfin, imaginez, mettre fan. Sont trois enfants qui vont essayer de faire revenir la magie. Mais en fait, je parle que de l'enfant que j'étais moi. Moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours adoré la magie. Et moi, me balader dans la forêt avec un bâton de bois en imaginant que c'est une épée, eh ben, c'est ce que j'étais avant. Après, plus je me regarde pas écrire, ce ne sont pas mes aventures à moi. Mais il y a cette part d'enfant en moi, et je n'écris que ce que j'imagine et que ce que je vois. Donc, je peux être un adulte plutôt bien dans ses baskets. Vraiment, il y a une part d'enfance là-dedans, et je crois que c'est ça aussi qui fait que ça marche, parce que on se met pas une position d'adulte, je me mets une position d'enfant avec toute la richesse et toute l'intelligence et toutes les questions et toute la découverte du monde qui sont passionnantes et qu'on peut garder en tant qu'adulte. Sur la deuxième partie de ta question, sur l'aspect politique, moi je suis convaincu qu'écrire c'est un acte politique. Les engagements, ils peuvent être de plein de manières différentes. Ça peut être des engagements qui sont du coup extrêmement politiques ou des engagements qui sont plus sur les valeurs. J'aurais tendance à dire que je suis plus sur les valeurs, mais en fait, même les valeurs sont politiques à un moment. Donc, évidemment, que je transmets des messages. C'est pas des messages parce que je déteste qu'on me donne des leçons. J'adore qu'on m'explique. Il y a tellement de choses que je ne sais pas et que je vais continuer à apprendre. Donc, je veux pas donner de leçons, sauf que je suis personne pour donner de leçons. Par contre, j'ai une expérience, j'ai des convictions, j'ai des valeurs et j'essaie de les partager. Alors, et j'ai aucun scrupule à ça. Mais sans dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est plus, ben voilà comment est-ce que, par exemple, l'amitié. Je trouve que, notamment en jeunesse, mais même pour les adultes, avoir des amis, je trouve ça super important. La vie, elle n'est pas toujours facile. Nous, en tant qu'adultes, on le sait. Et comment est-ce qu'on peut faire pour la traverser de manière la plus sereine possible? Eh ben, au-delà de plein d'autres valeurs dont on pourra peut-être parler, mais c'est l'amitié. Moi, je pense qu'il faut être entouré. Je pense qu'à plusieurs, on est plus fort. À plusieurs, on est plus courageux. Et à plusieurs, c'est plus facile de se relever. Parce que forcément, on va tomber. Et c'est la vie qui veut ça. Donc, je parle d'amitié. Je parle d'altérité. Je suis notamment... c'est un peu moins jeunesse, mais dans mon roman, Le garçon, la vie qui ne souriait plus, je parle d'un monde où tous ceux qui ne sont pas comme les autres, on les appelle les anormaux, on les rejette, etc. Parce que les lois de la norme stipulent qu'ils ne sont pas assez bien pour qu'on vive avec. L'altérité, c'est accueillir l'autre, c'est accepter sa différence, et c'est surtout voir comment cette différence nous enrichit. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. Donc, je parle de ça dans mes romans jeunesse, aussi dans mes romans, plutôt young adultes comme Le garçon. Mais ça, je trouve, c'est très politique. Enfin, on vit dans un monde aujourd'hui qui est un peu compliqué, où on voudrait bien laisser les migrants de l'autre côté de la mer et ça dérange personne. Enfin, sauf que moi, ça me révolte, et je ne suis pas le seul, heureusement. L'altérité, c'est la différence de couleur, c'est la différence de culture, c'est la différence de milieu aussi socio-culturel. Enfin, je veux dire, c'est un vrai sujet qui est éminemment politique, dont on parle pas mal en ce moment. Il faut continuer à en parler parce qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Ne serait-ce que sur... et pareil, c'est aussi, on en parlait en conf tout à l'heure, il y a dans le public un monsieur qui posait une question sur comment faire pour donner l'accès à la lecture à des populations défavorisées en France. Mais il faut leur donner des histoires qui leur ressemblent. Donc il faut des écrivains aussi qui leur ressemblent. Donc il faut élargir... Bon, j'appelle ça l'offre, mais le mot, je déteste ce mot-là, mais il faut élargir le panel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait que les mêmes personnes qui fassent tout le temps les mêmes histoires. Donc il faut qu'on s'enrichisse là-dessus. Et ça aussi, c'est très politique. De manière générale, moi, là où je parlerai plus de valeur, ça a forcément une connotation politique derrière, que je renie absolument pas. Mais moi, je suis très ancré sur les valeurs. C'est l'amitié, c'est le courage. Et toujours en jeunesse, c'est aussi c'est les rêves. Je raconte très souvent cette histoire, notamment quand je vais dans les établissements scolaires, où les gamins, je commence par pour les faire rire. C'est leur dire que quand j'étais petit, moi, j'avais trois rêves. Le premier, c'était d'être roi. Donc les gamins, ça les fait rire. Je leur dis ce que j'ai réussi. Ils me disent, bah non, bah, en effet, j'ai raté. Mon deuxième rêve, c'est d'avoir un château. Je dis, bon, ça, c'est raté aussi, j'ai pas de château. Et mon troisième rêve, c'est d'être écrivain. Et j'ai mis, moi, dès que j'étais gamin, j'ai commencé à écrire, j'avais 9 ans. Ma première nouvelle, j'avais 9 ans. J'ai toujours rêvé de ça. Et il se trouve qu'à 40 et quelques, je suis maintenant écrivain à temps plein. Ça a mis du temps, mais ce que je leur dis aux enfants, c'est que quel que soit leur rêve, on peut y arriver, à force de courage, à force de travail, et il faut jamais lâcher ses rêves. Quel que soit de l'endroit d'où on vient, quelle que soit son histoire, on peut aller au bout de ses rêves, et j'en suis un exemple très humble, mais c'est ça que je veux dire aux enfants. Et ça, je ne sais pas vraiment si c'est politique ou pas, mais la littérature jeunesse, il faut dire aux gamins qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent devenir astronautes, docteurs, astrophysiciens, pilotes de course, qu'ils soient garçons ou filles, qu'ils viennent des cités, ou d'ailleurs qu'ils soient jaunes, verts, rouges, bleus, fluo, on s'en fiche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup de par mes propres valeurs, parce que j'ai des gamins aussi, mais c'est plus mes valeurs là qui me touchent. Ces gamins, il faut leur ouvrir tous les possibles, et après ça sera à eux de faire des choix. Et c'est en ça que la littérature jeunesse, c'est entre autres en ça qu'elle est très politique et qu'elle est vraiment indispensable. Il faut qu'on ouvre toutes les portes à ces enfants d'où qu'ils viennent, parce que c'est les nôtres, quoi.
Là, tout ce que tu dis, ce que j'entends, c'est ce que tu veux insuffler dans la littérature, l'imagination d'un jeune public. Mais tu es cru aussi pour des adultes qui ont déjà vécu, qui ont leurs blessures, leurs cicatrices. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu parles d'espoir, plus de rêve?
C'est vraiment ce que j'aurais tendance à dire, et en fait c'est pas vrai. Quand j'ai ta question, c'est je leur dis l'inverse, parce qu'en fait j'adore la tragédie, j'adore en fait c'est presque un mensonge, parce que dans mes histoires, que ce soit Que passe l'hiver, qui est un roman qui est très triste, Le chant des gens, qui est un roman qui est très triste aussi, j'aime beaucoup ce qui est doux amer, j'aime beaucoup la mélancolie, parce que je trouve ça très poétique. Après je suis plutôt heureux, la vie je la trouve magnifique. Pour autant, elle est aussi difficile parfois. Il y a c'est comme des vagues, hein. Des fois on est dans le creux. Moi je crois qu'il y a de la poésie partout, je crois qu'il y a de la poésie dans la mélancolie, je crois que tous les combats valent le coup d'être mené, il faut mener les combats, et que l'importance c'est dans le combat, c'est pas forcément dans ce qui va en résulter. Il faut se battre pour ce qu'on est, pour ce qu'on croit, pour ce qu'on a envie, et l'importance elle est là. Finalement, réussir ou échouer, peu importe. Ce qui est important, c'est le cœur qu'on y met. Et c'est ça dont je parle, je crois, beaucoup dans mes romans. Je suis très travaillé par la mort, par l'amitié, même dans mes romans adultes, par la tragédie, par l'amour, par les liens, par les sentiments. Je crois que c'est tout ça qui m'anime. Et du coup, mes romans adultes sont plus dans le clair-obscur, mais j'adore ça. Je suis, parce que je trouve ça très... Ça me transporte. En tant que personne, ça me transporte. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de raconter.
Une sorte d'héritier des tragédies grecques.
Ah, mais j'adore ça. Mais ces tragédies grecques, c'est. Je crois que j'aime bien ces excès-là. Ce sont des excès, les excès d'amour ou les excès de rage. C'est la vie. Si j'aime parler de la mort, c'est parce que la mort, c'est juste la fin, et ça nous rappelle juste qu'on a pas beaucoup de temps, qu'il faut se dépêcher de faire plein de choses. Et ces excès qu'on a dans les tragédies vraiment me fascinent, parce que c'est vivre à 3000%, et je trouve ça extraordinaire. Il faut aimer fort, il faut avoir envie fort, du courage fort, il faut s'énerver, il faut être heureux, il faut se battre très fort, je crois aussi, tout ça.
Et le combat est collectif, vaut tout, mais il faut arriver à emmener les autres qui n'ont peut-être plus forcément la force de se battre.
Et d'où l'importance de l'amitié. Alors le collectif, moi je suis un grand convaincu du collectif. Je crois que vraiment qu'on ne peut pas faire grand chose tout seul, et que les plus belles victoires, ce sont les victoires collectives. Parce qu'on est tous fragiles à un moment ou à un autre, qu'on a besoin d'une épaule, et que réussir ensemble, ça n'a vraiment pas le même goût que de réussir tout seul. Sans collectif, moi je vois aucun intérêt à pas grand chose. Après, c'est ma conviction.
J'adore tout ce que tu dis, mais je vais faire un pas de côté et on va parler de tes projets.
Alors, mes projets, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est très, très
heureux. Réalisable. Hein.
Oui, oui.
À court terme.
Alors, à court terme, c'est beaucoup de jeunesse. En jeunesse, je travaille sur une nouvelle série, toujours chez Nathan, pour les 7-9 ans. Donc, ce sont des premiers romans, toujours en fantasy. Les deux premiers tomes sont déjà écrits. Je vais travailler sur les tomes suivants. Ça sera une série avec des tomes indépendants. L'idée me plaisait beaucoup. Et l'idée m'est venue juste avec le titre du premier tome, qui s'appelle La malédiction des cochons volants. C'est le titre qui me faisait beaucoup rire. Et du coup, c'est l'histoire de Licorne qui se transforme en cochon volant, au grand désespoir de Myrtille, qui est une petite princesse, qui va aller voir ses copines du clan du Chaudron, qui sont deux petites sorcières, pour essayer de résoudre cet affreux mystère de ces licornes qui se transforment. Le tome 2, dont j'ai eu l'idée pareil très vite, c'est le concours de mocheté. Mais c'est toujours ces petites sorcières dont la maman va lancer le concours de mocheté, sauf que catastrophe, toutes les sorcières sont super belles, ça va pas du tout. Donc elles vont essayer de découvrir pourquoi. Donc c'est une série, pareil, évidemment, je parle de valeurs, ou je parle de, encore d'amitié. Je parle aussi d'accepter l'autre, beaucoup, malgré ses différences. Voilà, je m'éclate. Pour le coup, là, c'est vraiment le côté très solaire de la littérature jeunesse. Donc il y a cette série-là. Je travaille aussi sur un synopsis de série 9-12, donc la même tranche d'âge que Brisaine, qui sera peut-être un peu plus sombre, parce que j'ai envie de parler de cauchemar. Après, je garderai évidemment toutes les valeurs. C'est l'amitié, c'est le fait d'y arriver ensemble. Mais je voudrais explorer quelque chose d'un tout petit peu plus sombre, tout en restant vraiment, j'insiste, hein, sur cet aspect solaire de la jeunesse. Après, voilà, il y a aussi du young adulte sur lequel c'est des romans que je fais peu pour l'instant. Et pour autant, c'est quelque chose que je trouve fascinant. L'adolescence avec toutes les révoltes, avec toutes les transformations. Il y a vraiment quelque chose à en dire. Et pour le coup, je parlais tout à l'heure de l'enfant qui est en moi, aussi l'ado qui est en moi, qui est très révolté. Et je crois qu'il y a plein de choses que j'ai envie d'écrire là-dessus. Donc pareil, j'ai des projets, pas pour tout de suite, mais qui sont déjà. Bon, j'ai déjà la maison d'édition, donc ça devrait avancer assez rapidement. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu jeunesse. Et du coup, côté adulte, je devais m'y mettre en novembre, ça sera plutôt en décembre, mais mon premier roman de science-fiction. Alors, je suis un gros lecteur de science-fiction, j'adore ça. Je parlais tout à l'heure du merveilleux de la science-fiction et de l'espace et de l'infini. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vais m'y atteler avec pas mal d'appréhension, beaucoup d'envie. Donc, je suis en train de commencer à travailler tout ça. Écrire, pour moi, c'est comme préparer un roman. Je suis un architecte. Je suis pas de ceux qui se mettent devant leur écran et qui laissent couler l'histoire. Moi, je viens de la préparer en amont. Et j'ai vraiment cette image de pâte à pain que je malaxe dans ma petite caboche. Je sais de quoi je veux parler, je sais de comment je veux en parler. Il faut que je continue à travailler ça, et puis bien prochain. Donc ça va être entre maintenant et décembre. Ensuite décembre, c'est je fais mon synopsis précis, rapide ou pas d'ailleurs, et puis ensuite j'enchaîne ça. L'idée, c'est de terminer ça pour le mois de juin, pour que ça sorte, je pense, plutôt début 2024, en fonction de mon rythme. Et voilà, donc les projets à court terme, les principaux projets, après j'en ai d'autres, mais on en parlera une autre fois.
J'attends avec impatience. On va passer sur le portrait chinois ?
Ouais.
Est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Je pense pas. Question altérité, tragédie gréco-romaine, si tu devais être une déesse.
Ah, oh, j'adore. Bah, Athéna, allons-y, paf, je sais pas pourquoi, mais...
Ah bah si, je veux savoir pourquoi, par contre.
Ah,
ouais, oui.
Pour la chouette.
Okay. Je valide qu'à moitié, mais très bien. Question rêve. L'association est immensément riche, comme n'importe quelle association culturelle en France, tout le monde le sait, et on t'offre un objet de science-fiction, de fantastique ou de fantasy, tu choisis un objet que tu veux, pour faire ce que tu veux. Sans contrainte.
Un vaisseau spatial.
Très bien. Lequel ? Ah bah oui, précision.
Franco Millenium.
Bien sûr. Je vais te laisser la possibilité, on va sortir la table de Ouija et on va appeler un auteur mort, du coup. Tu as le droit de lui poser une question. Choisis l'auteur et la question.
Oh, c'est dur, c'est super dur. C'est super dur. Ça sera soit Shakespeare, soit Virginia Woolf. Enfin, je suis vraiment... Enfin, c'est deux de mes auteurs. Oh, truc de dingue. Je sais pas si je leur poserai des questions. Je pense que je leur dirai merci. Parce que vraiment, ils me transportent toujours, l'un comme l'autre. Je suis pas du genre à poser beaucoup de questions. Mais par contre, je pense que je serais très ému et que je voudrais juste leur dire merci, vraiment.
L'interview touche à sa fin et comme promis, tu peux choisir la musique qui te va.
Ouais, alors j'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir, je vais rester sur sur l'idée du début. Alors je vais écorcher, je pense, le nom, mais la chanson c'est So Far et c'est Arnold, machin truc, je te l'ai donné tout à l'heure.
Avec
c'est une chanson qui est magnifique, qui m'a porté notamment pendant l'écriture de La Princesse au visage de nuit. Et qui est une très 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 belle chanson, très mélancolique, mais j'aime beaucoup les chansons mélancoliques.
Parfait, ça me va. Merci beaucoup David, un vrai plaisir.
Merci beaucoup.
www.radio-g.fr.